Bonjour, lundi 19 août, ici Chantal Lavoie. Bienvenue à Aime l'été, une autre semaine, notre avant-dernière. Et elle sera fort intéressante avec bien des sujets, d'excellents invités. Toute l'équipe qui a mis les bouchées doubles pour vous présenter encore aujourd'hui une excellente émission entre midi et 13h. Il sera question d'un festival qui met de l'avant l'art de la récupération, aussi des porteurs de traditions qui se réunissent dans un autre festival, festival de musique traditionnelle, celui-là. Également, on célèbre la beauté des identités complexes à travers la musique, les arts visuels et la poésie et des travailleurs de rue numériques pour mieux soutenir les jeunes. Voici Aime l'été. Et plus en détail, on va parler aujourd'hui de la 12e édition du Festival des artistes récupérateurs qui se déroulera en fin de semaine prochaine à Belœil. On reçoit Dominique Dumouchel, agente culturelle pour la ville de Belœil. Aussi, il y a le 32e Festival Trad de Montréal qui sera présenté du 29 août au 1er septembre. Festival au carrefour des traditions d'hier et d'aujourd'hui. On accueille à ce sujet Sébastien Chalumeau, spécialiste de la gigue. Puis on reçoit l'artiste et pianiste de musique actuelle, Nour Simon, qui va nous parler de ses projets musicaux et de ses partitions graphique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un travailleur de rue numérique? On en discute avec Jean-Christophe Filosa dans un tout petit moment. Tout cela à Aime l'été. L'été. Bonjour Nathalie.
Bonjour Chantal, comment vas-tu?
Ben ça va bien.
Ouais, tu sais ce que j'ai fait ce week-end?
Ouais.
Je suis allée chez mon fils.
Ben non, je ne sais pas, tu vas me le dire.
Je suis allée chez mon fils qui vit, écoute, en banlieue de Montréal, ramasser son sous-sol qui a été inondé.
Ah, c'est vrai.
Alors tu sais que, écoute, en fait, juste à Laval, le maire de Laval, Stéphane Boyer, lui explique les inondations de la semaine passée, de l'autre semaine d'avant, ont été 10 à 15 fois pires que celles vécues en 2017. Alors,
Avec les inondations,
ouais. Ouais, c'est ça.
Puis... Ça se manifeste, c'est autre chose, là, mais c'est vraiment là, la pluie qui a fait
exactement.
Gonfler.
Écoute, 175 millimètres d'eau sont tombés à Laval, en tout cas. À Laval, Montréal, c'est 158 millimètres, mais je veux juste dire que je suis avec tous ces gens-là en ce moment, je suis tout cœur avec eux.
Absolument.
Parce que c'est vraiment difficile, c'est dur pour le moral, c'est... entre autres, mon fils, il y avait des albums photos qui flottaient dans l'eau. Puis
incroyable.
Ça, c'est des choses qui sont... pas récupérable.
Non.
Alors, je suis avec vous partout où
on
vous êtes au Québec.
Au gros bris d'aqueduc
vendredi
dernier, en tout cas.
Ouais,
alors, c'est un peu la même chose. Ouais. Bon, alors, on va accueillir notre premier invité. On va faire une incursion dans l'univers du travail de rue numérique. Bonjour, M. Filosa, Jean-Christophe.
Bonjour, ça va bien?
Mais très bien. Alors oui, parlons de ça, d'un travailleur de rue numérique. Qu'est-ce que ça fait? Ben, on va en parler plus longuement, mais brièvement, là, dans première définition.
Ben, tout le monde connaît un travailleur de rue.
Oui.
Normalement, il fréquente les rues, les bars, essaie de recruter les jeunes, leur parler de leurs problématiques, voir un petit peu c'est quoi leurs défis personnels et les accompagner dans leur chemin de vie, qui est parfois difficile. Nous, on fait la même chose, mais dans le numérique. On a contacté des streamers, donc des diffuseurs québécois, environ une soixantaine, ce qui nous donne une capacité d'environ 180 000 jeunes qui les écoutent.
C'est ça. Puis pendant... Ce sont des plateformes.
C'est des plateformes.
Ça peut être des plateformes de jeux vidéo, par exemple.
Oui, ça peut être des plateformes de jeux vidéo, d'écoute en continu. Ça peut être Twitch, Kick, différentes plateformes où les jeunes, soit les gamers ou les gens qui veulent se renseigner sur d'autres choses. On a des historiens, on a des filles qui parlent de leur hamster. on a toutes sortes de gens qui font de la diffusion. On a beaucoup de beaux créateurs au Québec. Pendant leur diffusion, les jeunes sont présents. Mm-hmm. Nous, on apparaît dans leur chat en leur disant « Si tu as une difficulté ou une problématique, tu peux rentrer dans un salon privé et parler avec un de mes intervenants ou intervenants. »
Vous êtes un espion avec de bonnes intentions.
On pourrait dire, oui. Nouvelle génération.
C'est ça. Alors, c'est une façon d'entrer en contact avec ces jeunes-là. Et puis, en fait, bon, vous faites partie de la Fondation des gardiens virtuels qui a été créée quand même par François Savard. Et vous, depuis 2023, eh ben, vous êtes le coordonnateur, finalement, de l'équipe. l'équipe. Alors, vous recrutez aussi les gens qui sont des gens qui sont rémunérés, je pense, pour faire comme... Enfin, on parlait d'espionnage, on blague, là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une façon de joindre cette clientèle-là qui peut avoir aussi un problème de cyberdépendance.
Oui, mais il faut faire attention. Nous, en général, ce qu'on vise, c'est les problématiques en général.
Oui, oui.
On a des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale, des idées noires qui peuvent être parfois tendance suicidaire, des jeunes couples actuellement qui ont de la misère à déménager, sont obligés de vivre ensemble, donc il y a de la violence conjugale qui apparaît. Des jeunes qui nous ont dit cet été, justement, qu'ils n'avaient pas assez d'emploi, donc ils étaient obligés d'abandonner leur cours. Ils ne sont plus à temps plein, mais à temps et demi. Donc, ils perdent leur bourse. Donc, il y a toutes sortes de problématiques. Mais pas aussi la cyberdépendance.
Oui, parce que ça peut amener aussi des idées suicidaires quand vraiment on n'y arrive plus à gérer cette dépendance.
Je suis curieuse, comment les jeunes réagissent? Parce que le jeune est en train de jouer, est en train de discuter. Il n'est pas nécessairement dans le mood pour parler. C'est quoi leur réaction aux jeunes?
Bien, nous, l'avantage, c'est qu'on est là 7 soirs semaine, entre 7h et 10h.
Mm-hmm.
On est là en continu. Moi, j'ai donné le droit à mes travailleurs de rue numérique d'embarquer dans des discussions. Ils peuvent parler de musique ou d'autres sujets. Donc, ils s'aperçoivent que ce n'est pas des robots, c'est d'autres êtres humains.
Mm-hmm.
Puis juste avoir le flag où on prend un phare pour démarrer. C'est environ pareil.
Mm-hmm.
À un moment donné, le phare, quand il fait beau, on n'en a pas besoin. Mais le jour où il fait mauvais, on est bien content de l'avoir.
Oui.
Mais pour ces jeunes-là, le jour où ils ont un doute, une problématique, parfois on a des jeunes jusqu'à 8 ans. Là.
Mm. Ah,
plus...
oui.
Ouais, ouais, puis nos plus vieux ont 28, 30 ans. Puis à un moment donné, il y a mauvais mood, mauvaise journée, chicané par les parents, ta blonde qui te tape sur les nerfs ou ton chum qui tape sur les nerfs.
Ou qui t'a laissé.
Ou encore, tu as des questionnements sur ton genre, sur ton avenir, des choses comme ça. Bien, tu as une écoute qui est inclusive, gratuite, puis qui peut mener aussi à un référencement, peu importe où tu habites, au Québec ou en Acadie.
Parce que vous n'êtes pas des thérapeutes. En fait, vous faites du référencement, mais vous écoutez simplement. Donc, vous êtes vraiment comme un espèce de garde-fou, au fond. Puis c'est une façon d'entrer en contact de façon confidentielle aussi avec le jeune qui a peu de services à sa disposition, connaît pas du tout là, aucun service, aucun intervenant a priori.
Bien, nous, on est en amont des services.
C'est ça, c'est vous qui les guidez.
Donc, nous, en fin de compte, avant que la crise apparaisse, nous, comme nos collègues de tel jeune ou des choses comme ça, le jeune va les interpeller quand il va avoir la crise. Nous, ça peut être dans une réflexion, un moment, un doute. Le jeune peut apparaître sur nos réseaux et rentrer en communication avec nos intervenants à un moment donné. Nos intervenants sont soit des étudiants en psychologie deuxième, troisième année, on a des travailleurs sociaux, des gens de toutes sortes. Oui, ils sont rémunérés. On est financé par le ministère de la Santé. Donc.
C'est ça. Donc, les avantages sont multiples parce que ça touche une clientèle très, très variée qui, a priori, n'aurait pas nécessairement fait de démarche parce qu'une crise peut subvenir à tout moment. Alors là, vous les prenez dans un contexte où, au fond, vous arrivez à les mettre en confiance.
Bien, l'année dernière, je vais vous donner un exemple. Nous, on a atteint 1500 interventions
année.
En termes de statistiques, 60 % c'est des garçons.
Oui.
21 % c'est une clientèle LGBT. Le reste, c'est au féminin. Donc, on a vraiment une forte clientèle
de
garçons qui, souvent, n'osent pas être dans leurs émotions.
Tout à fait. Puis là, c'est la clientèle, justement, qui n'irait pas consulter très souvent.
C'est ça que j'allais dire. Ces jeunes-là, ils ne prennent pas la peine nécessairement. Ils vivent quelque chose de difficile dans leur journée. Ils ne prennent pas la peine nécessairement de prendre le téléphone et de dire « j'ai besoin d'un... » Un, les psychologues, c'est difficile à trouver en ce moment.
Absolument, oui.
Alors, mais d'avoir une écoute immédiate comme ça, c'est vraiment
puis
génial.
Le téléphone, on parlait du téléphone, justement, pour ce type de clientèle, c'est pas évident, c'est plus... évidemment, on texte, on téléphone plus, là, puis c'est intimidant aussi, le téléphone. Les silences, quand on est sur Internet, on peut faire des silences, on peut faire des pauses, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a toute une difficulté aussi liée au téléphone, comme les lignes d'écoute, c'est bien les lignes d'écoute, mais vous apportez une dimension différente à ce moment-là.
Oui, bien, l'avantage, surtout pour les jeunes garçons, ils ont le contrôle de la communication.
C'est ça.
Puis souvent, ils vont avoir une approche, pas en disant « j'ai une problématique, mais je pense que... » Donc, ce qui est tout à fait différent, alors que quand on est en face à face avec quelqu'un, je vais donner un exemple. Casquette Rose va parler avec Beden 24. Bien, il y a un anonymat en partant.
Oui.
Puis ça, ça permet aux jeunes de garder un certain contrôle sur la discussion.
Mm-hmm.
Puis pas être en jugement. Mais, d'un autre côté, tous mes gens ont été formés en présentiel. Donc là, nous, il a fallu qu'on écrive comment intervenir, mais justement à travers le clavardage.
C'est ça.
Qui est un autre défi, là. Donc,
Je suis curieuse, moi, vous dites que c'est majoritairement des jeunes hommes. Mm-hmm. C'est quoi les problématiques des jeunes hommes d'aujourd'hui, en général? Sur quel sujet?
Les relations amoureuses, c'est rendu compliqué. Il y a une solitude aussi qui existe. Il y a un doute dans leur place dans la société. Ça a changé, ça aussi. Là, donc,
ce qui n'existait pas avant, vraiment. Là. Les jeunes hommes aujourd'hui, ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Hein. Autant les relations avec les blondes, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Je trouve qu'ils ont beaucoup de pression, les jeunes hommes, aujourd'hui.
Oui, on est dans une génération de jeunes hommes. On est dans une société un peu schizophrène, dans le sens qu'on a notre réalité quotidienne, on se parle, on se voit, puis on développe une espèce de personnalité en ligne.
Qui est souvent très différente.
Qui est très différente. Mm-hmm. Il faut vivre avec les deux aussi. Là.
Ouais.
Donc, parfois, ça peut amener des bons puis des mauvais côtés. Donc, tu sais, ça fait partie de tout ça aussi qu'il faut réfléchir avec le jeune avec qui on va soit recommander vers des services ou accompagner. Parfois, ils peuvent nous rappeler 2-3 fois aussi, là. Ça a soulevé une première problématique, ils reviennent sur une deuxième. On essaie d'avoir le meilleur référencement. Un grand défi que nous, on a, puis avec nos collègues aussi en Europe qu'on a actuellement, c'est que les jeunes qui ont les références, ils nous reviennent une semaine plus tard en nous disant « Hey, j'ai parlé avec un psychologue ou quelqu'un de la santé. » Prochain rendez-vous 2025.
Ben,
je fais quoi en attendant?
Oui. Parce que là, évidemment, le problème demeure entier, au fond. Mais alors, donc, les formations pour justement être un travailleur de rue numérique, on prend ça où?
Bien, nous, on est en train de l'écrire actuellement pour le ministère de la Santé. On est en train d'écrire actuellement un protocole pour définir c'est quoi un travailleur de rue numérique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fait partie des milieux. On n'est pas en attente de la crise, comme on disait tantôt. Mm-hmm. On est là soir après soir. Donc, on fait partie de leur vie, de leur quotidien. Puis ça, c'est important pour les jeunes. Là.
Vous êtes sur le terrain, mais de façon virtuelle, parce que c'est le terrain de jeu des jeunes, finalement. C'est d'être sur
On lance la balle en ligne maintenant.
Et voilà. C'est là que ça se passe.
Derrière chez maman. Donc.
Bon. Mais alors donc, vous faites vous-même de la formation alors pour les gardiens virtuels. Et puis, c'est ça, vous voulez être présent le plus longtemps possible. Présentement, est-ce que vous êtes vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24?
Non.
Encore, tout à fait.
Non, puis c'est pas le but. Parce que nos diffuseurs sont pas là 24 heures sur 24.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Oui, je comprends.
Ce qu'on aimerait, par exemple, c'est augmenter nos heures. Actuellement, on est entre 7 et 10 heures le soir. On aimerait ça aller jusqu'à 11 heures, 11h30, aller un peu plus tard. Ce serait bien aussi pour rejoindre plus de jeunes qui, eux, sont disponibles en ligne plus tard. Donc,
J'aimerais comprendre, parce que je me dis que les gens qui nous écoutent en ce moment, s'il y a un jeune qui est en détresse, le jeune, lui, il joue pas à des jeux vidéo, il est sur Facebook, exemple, ou peu importe. Comment on vous trouve?
Il faut aller sur notre page.
Ah, OK.
Ou aller sur Discord. Les jeunes, ils savent de quoi je parle quand je parle de Discord.
OK, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Mais c'est ça. Mais ça, c'est un des réseaux auxquels ils ont accès, puis ils peuvent nous contacter par ça aussi. Donc.
Okay. Et donc, puis par le biais de toutes ces plateformes fréquentées par les jeunes, ils peuvent voir apparaître n'importe quand votre message. Vous dites, on est là.
On a un sigle
pour
identifier, pour que ce soit n'importe qui. Donc, c'est important.
Oui, vous vous faites reconnaître. Alors, vraiment, et puis pour le travailleur de rue là, qui fait ça quotidiennement, donc il est en ligne combien de temps, est-ce qu'il y a un temps minimum qu'il doit passer sur le réseau comme tel?
Non, ça, c'est un désavantage. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants en psychologie.
C'est intéressant.
Parce que, justement, on a un horaire entre 7 et 10 heures. S'il me donne 2 fois par semaine, je vais le prendre 2 fois par semaine. S'il est là, mais à chaque soir, notre but, c'est d'avoir 4 intervenants en ligne disponibles, comme suicide.ca, par l'écart de travail. Comme ça, ça nous permet de couvrir un maximum de jeunes. Si jamais on pourrait avoir un intervenant qui a 3 jeunes en ligne en même temps.
Okay,
donc, ses collègues vont faire le suivi de toutes les autres chaînes.
Mm-hmm.
Puis en plus, l'avantage, c'est à 4-1. Si jamais un jeune a une problématique spécifique, puis mon intervenant est un peu moins fort dans cette approche-là, il peut contacter les autres, puis les autres peuvent l'aider à trouver la meilleure réponse aux jeunes.
Ah là là, alors c'est bien organisé. Alors évidemment, j'imagine que vous bouillonnez il y a d'autres idées évidemment qui germent à travers ça. J'imagine qu'il va y avoir d'autres développements possibles dans l'avenir. Alors évidemment, comme on dit, vous allez sur le terrain, mais c'est le terrain du numérique. Alors c'est vraiment une belle initiative. Monsieur Filosa, c'est bravo pour votre travail.
Et, oui,
merci.
Félicitations à toute l'équipe qui travaille avec vous. Alors c'est vraiment du travail évidemment très pointu aussi. Ça demande beaucoup de psychologie, de finesse, c'est pas rien. Il faut bien maîtriser aussi tout en fait, ces plateformes-là également, puis connaître bien ce que les jeunes font finalement en ligne.
Mais les jeunes le méritent. C'est important qu'on
c'est important. Soit là. Oui. Bon, ben alors, c'est une belle solution, finalement, pour le manque de ressources, très souvent. Alors, merci beaucoup.
Plaisir.
Et puis, bonne suite au projet.
Merci à vous.
À la Fondation des gardiens virtuels. Merci. Alors, on reçoit notre deuxième invité. Et oui, avec Nathalie, c'est un invité qui est fascinant, oui, Nour Simon, oui, qui a une démarche artistique assez singulière autour de trois axes majeurs, à savoir la musique de concert, les arts visuels et la poésie. Bonjour.
Bonjour.
Et oui, alors, vraiment fascinant comme démarche. D'abord, vous allez nous parler d'un projet qui s'intitule Hawal, j'espère que je prononce bien. Ça, c'est dans le cadre d'une résidence que vous avez fait à la Maison de la littérature.
À la Maison de la littérature à Québec et à la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. J'ai eu la chance de faire deux résidences de création pour ce livre-là.
Ouais. Et ce livre-là, qui, en fait, la parution?
Ça va arriver en librairie le 10 septembre.
Ah, d'accord. Bon,
voilà.
Parfait.
Alors, je viens de recevoir la copie numéro 1.
C'est merveilleux. Oh, wow. Alors, on aura
toucher,
une...
C'est
oui,
chaud.
On peut toucher. On
ah, c'est chaud, chaud sorti de l'imprimante.
C'était bien prononcé.
On dit Hawal.
Hawal, oui, c'est vrai.
Ce qui est très proche, mais...
C'est en arabe, enfin,
c'est
en arabe.
Égyptien.
Arabe égyptien, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des particularités. Vous êtes d'origine égyptienne, effectivement. Dans votre enfance, ça parlait beaucoup arabe, bien sûr, arabe-égyptien, je ne sais pas, vous l'avez dit vous-même, donc je conclus qu'il y a des particularités.
Il y a absolument des particularités. Bon, voilà. Chaque pays moyen-oriental a sa version de l'arabe.
Alors, mais vous n'avez pas appris la langue.
Non, je n'ai pas appris l'arabe. Mon père a beaucoup insisté pour qu'on apprenne l'anglais. Mon père est un bon produit de la colonisation anglaise en Égypte. Oui. Donc, quand il est arrivé ici, sa priorité, c'était qu'on parle un anglais impeccable.
Oui, c'est ça.
Mais pas l'arabe.
Dites-moi, ouais, Nathalie, je suis sûre que tu allais poser la question, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben non, en fait, ouais, pose la question, après ça, moi, j'ai quelque chose aussi.
Ben oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Hawal?
Hawal, c'était un des mots qui revenait le plus souvent quand j'étais jeune dans ma famille égyptienne. Mais c'est ça, moi, je ne parlais pas arabe, donc je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Ma grand-mère, elle disait, Hawal, je me suis ennuyé de toi. Hawal, ramasse la vaisselle. Hawal, finis ton assiette. Puis, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis, des années plus tard, j'ai compris que ça avait plusieurs sens. Le sens premier, c'est un peu un sens gentil pour s'adresser à
familier.
Quelqu'un qu'on aime, familier.
Voilà.
Puis le deuxième sens, ça peut être traduit par fif.
Ah, OK.
Ah, oui. Ou,
c'est une autre... Ouais.
La traduction littérale, ce serait position passive de l'homme sodomisé.
Ah bon?
Là, tu dis, ah, OK, c'est une drôle de deuxième couche.
Ça veut dire beaucoup de choses, ça, finalement.
Troisième couche, puis celle qui était un peu à la base de mon projet, c'est que avant l'occupation anglaise, il y avait sous l'occupation ottomane de l'Égypte une population de danseurs du ventre qui s'habillaient en femmes parce que sous l'influence française, les femmes n'avaient pas le droit de danser en Égypte.
C'est vrai.
Donc, ces hommes-là ont pu exister, ont pu danser. C'était une communauté trans, si on voulait, pendant le reste de la journée, à continuer à s'habiller. Les gens continuaient à s'habiller en femmes, entre guillemets. Ouais. Puis j'ai trouvé ça magnifique de découvrir cette communauté-là, comment elle a pu exister pendant une soixantaine d'années en Égypte,
ouais,
en dehors des idées reçues qu'on peut avoir sur
ce pays-là.
C'est
ça, mais c'est toute la culture ottomane. Puis c'est intéressant parce que vous ne saviez pas que vous aviez tout ce bagage culturel derrière vous. Oui, Nathalie?
Alors là, moi, vu que tu as une superbe voix... J'aimerais que tu nous lises ceci.
La quatrième de couverture.
Exactement.
Ah ben oui. Donc, je suis quand même vraiment contente.
Puis ce livre-là est magnifique.
Ah ben merci, c'est gentil. Oui. Je suis une slutty queen, trans, femme, égypto-québécois, québécoise, neurodivergente, polyamoureux, polyamoureuse et pansexuelle. Avant de quitter le Québec pour l'Égypte, j'étais en deuil et je craignais la disparition de la beauté. Tout a changé quand j'ai visité ce pays que j'étais si pressé de rencontrer depuis la prise de conscience de mes origines. Je ne suis peut-être plus la même personne maintenant, et pourtant, je suis toujours une slutty queen, transfemme, égypto-québécois, québécoise, neurodivergent, divergent, polyamoureux, polyamoureuse et pansexuelle, effrayée par la disparition de la beauté et en deuil.
Mmh. Wow. C'est beau parce que vous dites, ben on parle de la beauté justement, de des identités complexes.
Oui.
Alors là, ben
c'est de ça que ce livre-là parle.
Oui, puis on en a un bon exemple parce que bon, vous avez lu vous-même tout ce qu'on vient d'entendre là. Et puis oui, parlons de c'est ça. C'est alors vous êtes une personne non binaire, vous êtes auteurice, compositeurice,
voilà,
et vous êtes improvisateurisme aussi parce que mais vous êtes pianiste aussi, oui, à la base de formation.
Oui.
Et puis vous avez étudié non seulement le piano, vous êtes allé au conservatoire de musique et donc la composition aussi. Mais là, vous avez une façon particulière aussi, non seulement de... vous faites de la musique actuelle, musique contemporaine. Vous avez même été joué par l'Orchestre symphonique de Québec.
Absolument.
Et puis, il y a plein de... Il y a des orchestres qui vous ont joué ici même à Montréal. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Mais vous avez surtout... c'est pas une partition traditionnelle non plus. C'est une partition numérique, graphique, qu'on veut dire. Graphique. Ouais.
Depuis toujours, je dessine le son, j'entends ce que je vois. J'ai jamais compris en fait que les autres êtres humains, quand ils regardaient un mur ou ils regardaient la face de quelqu'un, ça sonnait pas. puis quand j'ai commencé à faire du piano, à improviser au piano, j'avais pas beaucoup de mémoire, ça fait que je notais tout ce que je jouais sous forme de dessin, puis je pensais que tout le monde faisait ça. Puis pendant mes débuts en improvisation, j'ai beaucoup gardé ça pour moi, puis c'est un peu mes notes pour jouer. Puis quand je suis arrivé en composition, mes profs ont vu ça, puis ont dit « Ah, ben c'est intéressant, mais il y a des tiroirs pour ça. »
On va passer à autre chose. On va passer à
puis
autre chose,
à la toute fin de mes études, il y a un dernier prof qui m'a donné un petit coup de pied dans le derrière, puis qui m'a dit « Hey, il me semble que tes partitions notées traditionnellement sont pas jouables, puis donnent mal à la tête aux pauvres interprètes. Il y a pas quelque chose que tu me montres pas? » Puis là, je lui ai montré les dessins. Puis il dit « Ah, mais elle a ta musique.
» C'est très intéressant, parce que tu sais, bon, Nathalie, je regardais ça, puis c'est... En fait, ce sont des tableaux, de véritables tableaux, partitions. Parce qu'au fond, si votre dessin est un petit peu plus haut, ça veut dire des sons plus aigus. Un peu plus bas, c'est des sons plus graves. Alors, j'ai compris ça, là. Et puis, j'ai compris que si le trait était plus épais, c'était un son plus fort.
Plus complexe.
Plus complexe, plus fort aussi, peut-être. Enfin, il y a plein de subtilités.
Il y a
comme un code aussi que vous avez établi, que vous avez travaillé sur un code... Au fond, une sorte de façon de comprendre vos dessins là, avec des musiciens, exactement. C'est pas,
ça fait une quinzaine d'années que je développe ce code-là. Puis avec, justement, c'est ça, avec les musiciens qui ont enrichi ma façon de le communiquer.
Parce que c'est une partition qui peut se lire de gauche à droite, mais pas nécessairement.
Effectivement, au début, je les faisais vraiment toujours de gauche à droite, mais plus j'ai avancé, plus je permets aux musiciens d'aller se promener plus librement. Puis je numérise mes toiles, mes dessins, mes peintures, puis j'en fais un vidéo. Puis c'est ce vidéo-là que les musiciens interprètent.
C'est ça. Donc, ça veut dire que ça laisse place à l'interprétation
au
niveau des émotions et tout. Alors, évidemment, vous pouvez aussi agir presque comme un chef d'orchestre d'une certaine façon en même temps.
Absolument, j'agis souvent comme chef d'orchestre en répétition, mais en concert, je pèse sur play.
Ouais.
Puis les musiciens sont relativement autonomes. Ouais.
Et puis toi, Nathalie, ben, c'est parce que tu as l'œil rivé
sur
un tableau.
Je regarde le livre Khawal et je vois ces partitions musicales graphiques. C'est beau, c'est vraiment une œuvre d'art là, ton livre.
Plus j'ai avancé, plus j'ai réalisé que la partition soit belle, qu'elle soit attrayante, ça nourrissait beaucoup l'instrumentiste. Puis au début, je dessinais juste en noir et blanc pour aller vers la précision du dessin. Mm-hmm. Puis en avançant, je me dis, j'ai réalisé que en fait, la précision poétique, c'est plus ça qui est important pour moi, la précision de l'intention.
Mm-hmm.
Ce qui fait que maintenant, ben, je colle aussi des toutous dans mes partitions. Je mets beaucoup de paillettes.
Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a d'autres compositeurs qui explorent cette façon de faire maintenant.
Oui, ben ça fait une soixantaine d'années qu'il y a des gens qui font ça. À Montréal, il y a les grandes dames de Super Musique qui font ça depuis une quarantaine d'années, Daniel Roger puis Joanne Etu. Puis il y a toute une tradition, mais c'est souvent des gens plus champ gauche qui veulent amener plus de d'horizontalité dans le processus musical. Puis c'est aussi ça que je cherche. C'est très politique, ces partitions-là, puis ça l'a toujours été. Puis c'est quelque chose que je revendique.
Alors, évidemment, il y a une façon, il y a une forme d'improvisation dans tout ça,
absolument.
Forcément, parce
oui.
que chacun interprète aussi, fait sa propre lecture de tout ça. Et vous vous êtes, en fait, vous avez eu aussi, vous êtes laissé inspirer quand même par votre culture égyptienne. On pense à cette grande chanteuse Oum Kalthoum qui vous a d'une certaine façon inspiré parce qu'elle partait dans des espèces de vocalises là, interminables.
Absolument,
hein?
Absolument. En fait, Oum Kalthoum, c'est tellement un autre niveau de culturellement. C'est pas une musique qu'on écoute en Égypte ou dans beaucoup de pays moyen-orientaux. C'est une façon d'exister. Oum Kalthoum joue tout le temps.
Je comprends.
Puis elle joue depuis une soixantaine d'années dans tous les cafés, dans la rue, dans les taxis. Donc t'as toujours Oum Kalthoum dans l'oreille.
Je comprends.
Puis quand j'étais jeune, c'est la même chose. Dès qu'on rentrait chez ma tête, ma grand-mère, Oum Kalthoum jouait.
Ouais.
C'était pas, on n'écoutait pas Oum Kalthoum, on était dans l'univers d'Oum Kalthoum.
Je comprends.
Puis ça a formé toute mon oreille, effectivement.
Alors, c'est ça. Moi, j'ai dit Kalthoum parce que c'est
TH. Ben, on prononce très différemment d'un pays à l'autre.
Mais on s'arrête le temps d'une pause et puis on revient tout juste après. Puis on va pouvoir compléter la discussion.
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été, deuxième moitié d'heure, et on continue la discussion quelques instants avec Nour Simon, qui nous présentait Hawaï ou le privilège de la beauté, ce très, très beau livre qui est tout chaud, là, sorti de la maison d'édition, finalement, qui sera disponible en septembre. Et tu as vu même des recettes.
Dans lequel il y a de la poésie, des œuvres d'art, et j'ai même vu une recette. J'ai vu des œufs.
Il y a la recette de feuilles de vigne de ma famille.
Écoute,
pas piqué des verres.
Je trouve ça magnifique. C'est quand même une belle brique de combien de pages?
488 pages, c'est une petite fierté personnelle,
je comprends,
dois dire.
Mais c'est 480 pages, il me semble, de bonheur et de belles choses.
Ah, merci.
Je trouve ça vraiment beau.
Merci. Parce que vos partitions graphiques, là, finalement, vous les exposez, vous avez déjà exposé à l'usine C.
Oui,
vous avez même en Italie, dans la très belle ville de Lucca, vous avez exposé.
Puis à Berlin récemment.
À Berlin. C'est fascinant parce que ça donne des tableaux. Alors, c'est les musiciens qui suivent cette partition-là, mais en fait, ce sont des dessins, on le rappelle, et c'est ça, qui deviennent, on peut les voir, on peut les apprécier même dans le cadre d'une exposition. Il y a de la poésie, évidemment, dans ce livre, mais dans tout ce que vous faites. Alors, c'est ça, vous composez la musique, mais vous la transcrivez finalement en dessin. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça laisse place à l'improvisation, ça laisse place à la création. Eh bien, écoutez, c'est vraiment, on voulait juste conclure avec vous et puis rementionner que ce livre-là, c'est une belle brique. Puis tout votre travail, c'est très, très intéressant. Ouais. Ah
ben, on rappelle, on l'a bientôt en librairie.
Oui, le 10 septembre. Puis si vous êtes intéressé à entendre la musique, le 1er octobre, il va y avoir un concert de certaines des partitions qui sont dedans au Théâtre La Chapelle.
Ah, OK.
Ah, c'est merveilleux. Et puis, en fait, vous avez même présenté, bon, quand il y a eu l'inauguration du pavillon La Sonde, là, du Musée national des Beaux-Arts de Québec, vous avez exposé vos œuvres aussi?
On n'a pas pu les exposer, finalement, non. Mais l'Orchestre symphonique de Québec a joué, c'était une pièce d'une heure, ce qui était quand même exceptionnel, que j'avais créé en collaboration avec Yannick Plamondon.
Ouais.
Donc, ça avait été vraiment un moment charnière dans ma carrière.
Exactement. Puis, il y a la mise en opéra aussi de l'œuvre de Nicole Brossard.
Oui, ça m'occupe depuis 10 ans. Puis j'ai pas fini.
Ben ça aussi, alors c'est tout l'aspect poétique. Enfin, c'est bref.
Ben pour moi, tout est poésie, tout est musique, tout est cuisine. Je comprends pas qu'on sépare ça.
Eh oui, c'est comme la beauté des identités complexes, comme vous dites aussi. Alors finalement, ben tout est inclusif. C'est merveilleux. Écoutez, merci Nour Simon d'être venu nous visiter.
Merci grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Merci. Alors et puis bonne chance pour la suite et de beaux projets à venir.
Merci.
On passe d'une chose à l'autre, on continue en musique, mais là, en musique trad.
Oui.
Bonjour Sébastien Chalumeau du Festival Trad, qui aura lieu dès le 29 août. Hein?
Oui, c'est ça, Festival
c'est
Trad
ça.
Montréal, du 29
trad
août
Montréal.
Au 1er septembre.
Exactement. Alors ça, c'est vraiment nos traditions à nous. C'est notre musique du monde à nous, en quelque sorte.
Exactement, mais c'est nos traditions qui sont vues avec des lunettes de 2024, puis dans toute leur diversité également.
Okay. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment un patrimoine qui ne cesse d'être renouvelé. On parle de transmission, évidemment, entre les générations aussi. La musique trad se transmet.
Oui, la musique trad se transmet de génération en génération, mais aussi de voisin en voisine, de cousin en cousine dans la famille. C'est la musique trad, mais on parle aussi de danse trad,
oui.
De gigue.
Ben oui, parce que vous êtes un spécialiste de la gigue.
J'ai l'impression, moi, que pendant des années, la musique trad a été boudée. Puis après ça, il est arrivé des groupes et des gens qui ont fait que, hey, c'est bien.
Ah ben, c'est
bon
sûr que la bottine souriante a beaucoup contribué.
Ouais,
les Charbonniers de l'Enfer, Gilles Vigneault aussi qui s'est produit avec les Charbonniers. Enfin, ça a mis beaucoup. Il y a eu une espèce de regain, là.
Oui, alors le répertoire traditionnel traverse les époques, il traverse le temps. Et à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle époque, eh ben, il se moule un petit peu dans les codes esthétiques de cette époque-là. Donc à chaque 10, 20 ans ou chaque génération, ben, il y a une mutation qui s'opère. Donc, c'est des arts qui sont vivants. Et effectivement, ceux qui nous parlent, dont on connaît le plus les références actuellement, c'est avec les grands noms que vous venez de citer.
Oui, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on pense à Salbard aussi, qui finalement a renouvelé également
qu'on aime.
Oui, effectivement. Une manière d'actualiser le trad, c'est aussi la rencontre entre différentes pratiques. Puis c'est ce qu'on va voir également dans le Festival Trad Montréal. C'est pas juste juste du trad québécois, parce que une manière de s'apercevoir de ce qui est précieux dans ce trad québécois, c'est aussi de s'intéresser aux traditions de cultures différentes également, mm-hmm. puis c'est de mettre ça tout ensemble.
Ah, ben c'est intéressant. Puis vous, vous êtes un spécialiste de la gigue en plus. Alors, vous êtes un danseur.
Moi, je suis un artiste en gigue. Donc, je suis un danseur, un interprète, un chorégraphe, un créateur.
Ouais. Alors ça veut dire que, ben oui, parce que là, quand on parle d'influence, quand on parle de, évidemment, la gigue, on a notre gigue à nous, mais finalement, on pense à tout ce qui se fait les Irlandais avec... il y a toute une culture aussi qui existe ailleurs à ce niveau-là.
Oui, la gigue peut signifier différentes pratiques. Mais la gigue québécoise est bel et bien une pratique d'ici. Moi, c'est, vous l'entendez peut-être, je ne suis pas né ici, je n'ai c'est pas ça, grandi ouais. ici. Mais quand je suis arrivé au Québec il y a 15 ans, la gigue a été une manière pour moi de me trouver une place dans, dans ce territoire oui. québécois. Ouais. Alors, c'est une pratique, tout comme les autres arts traditionnels, qui sont très inclusifs.
Ouais, mais une façon pour vous, effectivement, ça a été votre façon de vous intégrer finalement à la culture québécoise en faisant de la gigue. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il va y en avoir pendant le festival, bien sûr. Alors donc, cette musique qui n'est pas juste finalement associée au jour de l'an ou enfin au temps des fêtes, ou en fait, c'est vraiment autre chose.
C'est vrai qu'avant, on écoutait ça le 31.
Oui.
Je dirais même pas le temps des fêtes, le 31.
C'est encore un peu ça, finalement. Quand t'écoutes la radio, c'est un peu ça, oui.
Oui, effectivement.
Ouais, c'est dommage.
C'est peut-être quelque chose qui est associé beaucoup à la cellule familiale ou alors quand on retrouve nos proches. Donc, peut-être que par la bande, on en vient au jour de l'an puis à la Saint-Jean, mm-hmm. mais c'est à l'année longue qu'il a des concerts de musique trad, qu'on pratique la gigue, qu'on danse dans les veillées aussi.
Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu disais qu'on a l'impression qu'à un moment donné, ça s'est perdu. Mais en fait, c'est parce que c'est très peu médiatisé, souvent auprès du public. C'est un peu quand même le phénomène de la musique country, au fond. Hein? Mm-hmm. Bon, c'est ça.
Ben, oui. Maintenant, c'est pas le new country, on le sait
que, ça, que les gens en écoutent beaucoup. Ben, même chose pour la musique trad. Alors, il y a vraiment tout un... il y a plusieurs festivals qui existent de musique traditionnelle ici au Québec. Donc, c'est de plus en plus populaire.
Oui. Absolument. Au Québec, il y a une trentaine de festivals dont c'est le cœur de la programmation artistique. Et le Festival Trad Montréal dont on parle, c'est un de ces 30 festivals, mais existe depuis 32 ans. C'est la 32e édition de ce festival.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce qu'on y trouve au festival à Montréal? Qu'est-ce qu'on peut aller entendre et voir?
Oui, alors c'est une programmation sur 3-4 jours. C'est une grande fête où il y aura autant de la musique, de la chanson, de la danse, de la gigue. On pourra voir de la danse, mais aussi on pourra danser dans les veillées exactement au son du caller ou de la calleuse. Donc, il y a une programmation qui va être autant gratuite au Parc Hansik que payante aussi, avec des spectacles un petit peu plus complets au Patro Villeray.
Oui, c'est le patro.
Le patro.
Oui, parce que ce matin, bon, je parlais avec ma collègue qui me précède et puis, bon, on ne savait plus où placer le R. C'est qu'en fait, la Maison de la culture aussi, Antique, je pense, a des travaux à faire. Alors, ça devait être localisé, finalement,
Tout à fait.
Au patro. Ouais.
Mais c'est l'occasion pour le festival de prendre possession de la ville et de différents quartiers de la ville. Il y aura même une soirée pré-festival samedi qui s'en vient, le 24, au Centre des mémoires montréalaises, au musée dans le centre-ville. Donc, vraiment, le festival aura lieu partout à Montréal.
Ce beau musée, ce nouveau musée. Oui. Alors, c'est vraiment une énergie brute là, et authentique, là, cette musique-là. Et avec tous les artistes québécois, parlez-nous des artistes qui seront là.
Il y a différentes formations qui vont performer durant le spectacle. Il y a autant des formations bien connues de la communauté trad, Genticorum ou Traverse, qui regroupent des musiciens et des musiciennes dont la réputation n'est plus à faire et qui vont présenter leur spectacle. Vraiment, c'est à ne pas manquer. Il y aura aussi des artistes venus d'outre-Atlantique. C'est comme l'exemple d'un musicien écossais, Arthur Coates, qui va être là avec son camarade pour présenter aussi son répertoire. C'est un musicien qui est passionné par la musique québécoise aussi, donc il va y avoir un mariage qui va être intéressant à voir. Mm-hmm. Et spécialement cette année, il va y avoir des musiciens CLES, donc de l'organisme CLES Canada. Donc la musique CLES va avoir sa place au FTM et va se marier vraiment d'une manière inattendue avec la musique québécoise.
Ouais, musique Klezmer, là, vraiment, c'est tout à fait, la musique traditionnelle d'ailleurs, mais qui rejoint effectivement nos cordes à nous, là. C'est intéressant pour ça.
Il y a également cette énergie rassembleuse.
Oui, absolument. Alors, quand on fait un mélange de tout ça, c'est vraiment fascinant. Donc, ça a été, en fait, ça a été ce festival-là initié par Gilles Garand, qui est quand même un monument dans le domaine, hein?
Oui, tout à fait. C'est une figure emblématique de la communauté trad. En fait, c'est un des initiateurs aussi de Espace Trad, qui est l'organisme qui organise ce festival-là. La programmation artistique, il a passé la main à ce sujet-là à Marjolaine Forêt, qui s'en occupe maintenant depuis 3 ans et qui fait un travail remarquable.
Ouais, parce qu'il y a aussi dans ce... au niveau de la musique traditionnelle, c'est ça, il y a quand même tout un travail de recherche, hein, qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur... découvrir aussi d'anciens répertoires, mais vraiment la collecte du répertoire de musique traditionnelle au Québec, c'est tout un champ d'expertise aussi.
Absolument. Il y a des collectionneurs, il y a des chercheurs qui vont chercher les origines de ce répertoire-là, mais il y a aussi des créateurs pour qui, je ne dirais pas que les origines ne sont pas importantes, au contraire, mm-hmm. ils laissent ça à d'autres, mais qui se concentrent sur comment ce répertoire peut s'actualiser aujourd'hui et comment il peut résonner en nous aujourd'hui encore.
Ouais. Alors vous, dans votre travail, c'est ça, vos projets à vous, personnellement, comme un gigueur, là, c'est-à-dire que il y a le Festival Trad qui vous occupe, vous faites partie de l'équipe, de toute façon, là, au niveau de l'organisation et tout. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir de votre côté?
Absolument. Moi, je fais partie de différentes compagnies, dont L'Arvoyure, qui va présenter un de ces spectacles-là dimanche soir de danse, qui essaye de voir comment la gigue peut avoir un sens pour des personnes de la génération des milléniaux. Donc, c'est le questionnement central. Donc, moi, j'ai ce genre de projet aussi qui allie création et réflexion. Je suis un interprète pour d'autres compagnies aussi, dont la compagnie Zogma, qui va performer le samedi après-midi. Si vous avez entendu parler d'une grande soirée qui s'appelle Les manteaux sous lit puis les bottes dans le bain, c'est une grande veillée multidisciplinaire qui a lieu à tous les hivers, qui est organisée par L'Arvoyure. Et puis, j'ai aussi des projets chorégraphiques personnels où j'ai un bagage de linguiste à titre de personnel et j'essaye de marier cet aspect scientifique-là à la gigue et à la danse, et ça fait des fois des choses intéressantes.
Alors, ça veut dire combien de groupes là, qu'on pourra voir, apprécier durant le festival?
Voilà, il y a une vingtaine de formations qui vont se rassembler durant le festival. Le festival va s'ouvrir le jeudi soir avec une soirée signature du festival qui s'appelle le Composium. Puis là, si vous ne connaissez pas tout à fait très bien la musique trad, c'est une belle manière de le découvrir. Mm-hmm. C'est une soirée qui met à l'honneur les grands compositeurs et compositrices de trad, parce qu'il y a aussi des compositeurs qui composent des airs trad. C'est pas juste du répertoire ancien. Traditionnel ou ancien. Donc, cette soirée-là met en valeur ces compositeurs et compositrices qui sont revus, dont les compositions sont revues par le band Maison, dont des musiciens Claise.
Ah, c'est intéressant. Et puis, associé à ça, il y a quand même des prix qui sont remis.
Tout à fait. Le Composium, c'est l'occasion de remettre les prix Aldor qui permettent...
Pour Aldor Morin. Hein,
ça, oui, exactement, pour Aldor Morin, qui permettent de rendre hommage ou de souligner le travail de différentes initiatives en trad, que ce soit en création ou alors en recherche ou alors par l'ensemble de la carrière.
Aldor Morin, qui était un harmoniciste. Hein,
un harmoniciste bien connu.
Et oui, alors c'est ça. Puis on pense aussi à Alain Lamontagne, hein, qui a déjà gagné ce prix, mais il y a Yves Lambert, La Bottine Souriante aussi, l'a gagné en tant que qu'ensemble. Là. Enfin, il y en a plein comme ça. Gilles Vigneault avec les Charbonniers de l'Enfer aussi. Alors, vraiment, c'est un beau festival qui s'en vient, vraiment. Ouais. Alors, oui.
On rappelle les dates, s'il vous plaît.
Oui. Exactement, du 29 août au 1er septembre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la billetterie sur le site internet du Festival Trad Montréal. Ne manquez pas ça, vraiment, ça va être une grande fête.
Oui, alors ça va, comme on dit, swinguer.
Oui,
hein?
Oui.
On dit swinguer la baquaise dans la boîte à bois,
dans le fond de la boîte à bois, c'est la formule
consacrée. OK. Bon, probablement que c'est plus sophistiqué aujourd'hui, là, mais
ouais.
Bon.
Absolument.
Alors, Sébastien Chalumeau, ça a été un plaisir.
Merci
et
beaucoup.
Bon festival.
Plaisir partagé.
Alors, c'est le temps d'accueillir notre dernière invitée, Dominique Dumouchel, agente culturelle pour la ville de Belœil, qui va nous parler du Festival des artistes récupérateurs. Bonjour!
Bonjour!
Alors, comment allez-vous?
Très bien, vous?
Alors, ben là, on va parler de ce festival Caput, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Et puis, ben, c'est quand même la 12e édition, hein?
Exact!
Alors vraiment, les artistes récupérateurs, c'est quand même pas d'hier là que les gens essaient de trouver, en fait, de recycler des matériaux pour en faire autre chose. Mais ben là, on réunit tous ces artistes-là autour d'un festival comme ça.
Exactement, 12e édition de Caput cette année. Dans le fond, l'histoire du festival est partie que à la ville de Belœil, on avait cinq organismes culturels qu'on voulait mettre en lumière. Donc, on a l'atelier peinture, sculpture, on a les tisserands, le vitrail, la céramique. Et puis, on cherchait une façon de mettre en lumière ces organismes-là et on a trouvé, avec une thématique environnementale, la création du Festival Caput.
Alors, c'est parti de là. Puis, alors, belle initiative. Et puis, après ça, ben finalement, c'est l'imagination de tous ces artisans. Alors, ça donne, en fait, ça peut être toutes sortes d'objets, finalement, et qu'on peut acheter, se procurer. Très intéressant, là. Puis, c'est en fin de semaine qui s'en vient.
Exact. 24 et 25 août, de 10h à 5h sur la place Sorel-Dubois.
D'accord. Alors, parlez-nous, donc, de grosso modo, là, de ce qu'on va y trouver là, comme exposant, notamment.
Dans le fond, le site est morcelé. Nous avons plusieurs chapiteaux où se retrouvent les artisans. Nous avons un chapiteau qui va regrouper la zone qu'on appelle zéro déchet, qui va vraiment plus avec des commerçants, des commerces qui travaillent le zéro déchet. Nous avons également un chapiteau qui va regrouper des organismes, nos organismes culturels qui sont au balbutiement de la création du festival, qui vont faire des démonstrations, qui vont aussi montrer des produits de création. Nous avons aussi une zone artisan exposant sur le site qui va être gazonnée, regroupant une quarantaine vraiment d'artisans récupérateurs. Donc, des artisans qui récupèrent des matériaux, le bois, le fer, c'est le critère de base de la récupération entière, donc des créations uniques d'artisans québécois. Nous avons également la bibliothèque municipale qui va avoir un chapiteau, et ça, c'est primé du festival. On parle d'une vente de livres, plus de 13 000 livres à faible coût à vendre. C'est vraiment un incontournable du festival.
C'est ça. Alors vraiment, là, vous avez autant divers médiums, on l'a dit. Ça peut être la sculpture, le textile, les métiers d'art, des objets utilitaires. C'est sûr, ça peut être aussi varié que l'imaginaire, là, finalement, de ce qu'on peut imaginer. Et puis, alors vraiment, puis en plus, ben, c'est ça. Vous avez également d'autres volets. Là. Chaque exposant a son petit espace, bien sûr. Et puis, quels étaient les critères de sélection pour réunir les exposants?
L'originalité, la création, les matériaux utilisés, c'était vraiment les critères de sélection. Et on essaie de se renouveler. Le festival, comme vous dites, est à la 12e édition. Donc on essaie de faire des rotations dans les artisans. C'est toujours un peu le défi. Donc, il n'y a pas beaucoup de commerce. C'est très niché, la récupération.
C'est ça.
Ça vient avec toute sa complexité. Mais on a quand même réussi à récolter 45 exposants cette année très primés.
Ah, ben oui, parce qu'ils peuvent venir d'ailleurs, là, pas seulement de la ville de Belœil, hein, je pense.
C'est partout du Québec.
C'est ça. Donc, c'est des gens qui se promènent, qui peuvent se promener même d'un festival à l'autre. Mais alors, des exposants zéro déchet autant que se peut, hein?
Exact.
Alors, évidemment. Et puis, il y a une friperie comme... Là, on a parlé de livres, mais il y a toute cette friperie extérieure, là, pour échanger aussi des vêtements.
Oui, c'est la 3e édition de la friperie. Ça l'explose à chaque année. Dans le fond, c'est un appel aux citoyens sur nos réseaux sociaux pour venir faire des dons. Et c'est vraiment avec le principe d'échange. Donc, les citoyens, les participants pendant le festival sont invités à venir déposer des objets toujours en bon état, mais inutilisés. Et puis, on fait une rotation. Donc, après, tous les dons sont remis à l'organisme Meublitout du coin. Mais c'est aussi un des deuxièmes grands hits du festival, je dirais, la friperie.
Vous parlez des vêtements. Ouais, vous parlez vêtements et objets?
Oui.
OK.
Oui, absolument. La seule chose, on ne prend pas de gros électroménagers, bien sûr, mais on prend de tout.
OK.
Ah, quand même, c'est intéressant. Puis, en fait, il y a toutes sortes d'exposants, mais il y a aussi le Cercle des fermières qui a toujours été quand même une organisation bien souvent présente dans les municipalités et qui, en fait, a conçu un fameux sac réutilisable hein, pour justement accueillir nos objets, les achats que l'on va faire au festival. Donc, c'est ça, c'est un sac que l'on peut se procurer sur le site, hein?
Oui, on est très fiers. C'est notre belle nouveauté de cette année. Nous, à la Ville, comme outil promotionnel, nous avons des oriflammes. Donc, c'est une espèce de textile plastifié un peu. Et puis, on en avait accumulé beaucoup à travers les années. Puis, on se questionnait comment les réutiliser oui. pour faire un beau clin d'œil au festival. Donc, on a approché le Cercle des fermières. Ils nous ont cousu des sacs réutilisables pour faire les courses justement pendant Capoute parce que la vente de livres, comme je vous dis, qui est un incontournable, mm-hmm. le Cercle des fermières va être situé près du kiosque de la bibliothèque. Donc, les gens vont pouvoir faire l'achat d'un sac et puis aller faire leurs courses et entièrement récupérer le sac qui est fait d'anciens oriflammes de la ville. Et les bretelles sont faites à partir de ceinture de sécurité d'auto.
Oh, intéressant. Ah oui, alors ces oriflammes, c'est évidemment tout ce qu'on voit dans nos municipalités pour annoncer les différents événements. Là. Vous mettez ça sur la rue, alors au moins, on peut récupérer ces oriflammes. Et il y a aussi, en fait, la zone Capoutchou.
Oui!
c'est mignon comme tout.
Capoutchou.
Oui, effectivement, c'est un bel ajout au festival. On pense toujours aux artisans, tout ça, mais on essaie de grossir un peu l'offre pour les familles et pour les adolescents. Donc, Capoutchou, on va vraiment y aller avec des offres d'activités de médiation culturelle. On va avoir l'arrière-scène, qui est le théâtre jeunesse situé, qui est notre voisin de la Maison de la culture, qui va venir créer une scène pour inviter les jeunes familles à pratiquer les arts de la scène parce que eux dans le fond, ils vont sortir tous leurs décors parce qu'ils ont une politique de réutilisation pour leurs décors de théâtre. Donc, tout le site va être habité, la zone Capoutchou, par l'arrière-scène.
Alors ça, c'est vraiment pour les familles, les enfants. C'est bien sûr, on le devine bien, que les enfants ont leur place là-dedans. Là. Habituellement, à quel moment vous sollicitez les artisans? C'est au printemps?
Exact. Dès le mois de mars, on lance notre appel, on a notre liste de fidèles, on envoie ça un peu sur nos réseaux et on commence le magasinage de Capoute au mois de mars.
Bon, j'imagine que vous avez dû remarquer une différence, là, c'est votre 12e édition. Alors, la créativité, l'ingéniosité de tous ces artisans, j'imagine que ça s'est beaucoup développé aussi avec le temps.
Oui, on voit beaucoup le terme de upcycling. On voit vraiment le textile, la couture, il y a une explosion à ce niveau-là. C'est toujours une surprise. On est toujours émerveillé par les créateurs. L'ingéniosité des créateurs, c'est vraiment ça, la plateforme de Capoute. Les œuvres sculpturales aussi, le travail du métal, du bois. On a toujours des surprises à chaque année, mais je dirais vraiment que dans le textile et l'upcycling, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution.
Ouais, alors c'est vraiment une tendance, c'est une belle façon en tout cas d'acheter des choses sans que, évidemment, de pas surconsommer inutilement, on recycle. Alors c'est vraiment une belle façon. Alors ça a lieu en fin de semaine, là quand même, 24-25 août. Les heures, les heures, ce sera à partir de 10h, je pense, hein?
Exact, de 10h à 17h. Site est entièrement gratuit. Sur le site web, se trouvent tous les détails pour venir parce que le site devient entièrement piétonnier, donc il y a un enjeu pour les stationnements, mais tout est inscrit sur le site.
Donc, alors c'est sur le terrain extérieur de l'espace culturel Aurel Dubois, là près de la bibliothèque, c'est ça?
Exactement.
Bon, à bel oeil. Belle initiative, l'art de la récupération vraiment en vedette. Alors, c'est vraiment fort intéressant. Donc, et puis, c'est la 12e édition, on le rappelle. Il y a une offre alimentaire. Hein, on peut se rassasier comme on veut aussi sur place. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler, Dominique Dumouchel, agente culturelle de la ville de Bel-Oeil. Alors, et puis, je vous souhaite d'autres belles éditions comme ça.
Merci beaucoup et au plaisir de vous recevoir à Bel-Oeil.
Merci bien. Ça a été un plaisir.
Tu sais qu'il nous reste 2 semaines.
Oui.
Et cet été, j'ai vu et j'ai entendu des gens nous parler des festivals, mais on est tellement gâtés.
Tout à fait, oui.
L'offre.
On a eu l'impression aussi que l'offre. D'ailleurs, on en avait parlé avec nos invités, avec notamment. On va rencontrer Joël Legendre, cette semaine.
Oui, cette semaine, on a
Et puis, c'est ça, c'est qu'on lui a parlé auparavant. Puis, on parlait de comédie musicale. Hein,
ouais.
c'est, 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 c'est incroyable, mais c'est parce que c'est suite à la pandémie, bien sûr, que là, on avait quand même réservé les droits pour produire ces spectacles-là. Alors là, on les a tous en même temps.
Les artistes aussi. Hein?
Les artistes
aussi, oui.
Exactement,
alors là,
qui étaient réservés finalement bien à l'avance. Alors là, on a toute cette offre-là cet été, c'est incroyable.
Festival, spectacle, comédie musicale, on est quand même assez chanceux.
Oui, c'est ça. Alors toutes sortes de festivals en tout genre et puis d'ailleurs.
Il faut en profiter, mais on le dit souvent cet été, il y a full activité gratuite.
Tout à fait.
Il y en a beaucoup, beaucoup des activités gratuites.
Ouais. Alors, parfait pour les petits budgets. Il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde.
Un gros merci, Nathalie.
Merci à
nos invités. Merci à vous, public, d'avoir été là. Et on se retrouve, nous, demain, entre midi et 13h. Et oui, à Aime l'été. Et puis, c'est ça, nous, on sera là. Et puis, c'est effectivement pour d'autres beaux sujets à venir. Thank you.